Bonjour à tous. Ce matin, on va écouter ce que le prophète Habacuc a à nous dire. Vous savez qu'on a, avec certains parmi nous, on a étudié un livre qui s'appelait « La Bible que Jésus lisait » qui a donc on a parcouru en fait l'Ancien Testament et on a abordé disons les prophètes et ce que ces prophètes pouvaient nous apporter et on a partagé autour du fait que bien ces prophètes souvent au-delà de l'annonce de la parole de Dieu qu'ils faisaient à leur peuple, eh bien ces prophètes étaient des hommes profondément engagés dans leur relation avec Dieu, tout ce qu'ils pouvaient partager, ça venait directement de leur vie, des souffrances qu'ils rencontraient, des interrogations qu'ils se posaient. Personnellement, j'aime beaucoup ce prophète Habacuc, dans sa façon dans sa relation à Dieu. Et dans ce qu'il a aussi à nous apporter et les exhortations qu'il apporte. Alors, simplement pour vous donner un peu le contexte de cette prophétie d'Habacuc. Donc, Habacuc, il est contemporain de Jérémie et il a exercé son ministère à la fin du royaume de Juda. Un peu avant la déportation à Babylone, donc la prophétie qu'il apporte, on la situe vers l'an 600 avant Jésus-Christ, et donc elle se situe en fait entre le moment où l'Assyrie est en déclin, les Chaldéens, dont on va parler là, sont arrivés dans la région de Babylone et ont, on va dire, boosté redynamisé cet empire. On parle d'un empire néo-babylonien. Et donc cet empire de Babylone est en train de conquérir petit à petit toute la Mésopotamie et affronte l'Égypte. Et en 605, avant Jésus-Christ, donc il y aura une grande bataille entre les Égyptiens et les Babyloniens, dans laquelle, à Carchemish, dans laquelle l'Égypte ses armées ont été détruites. Et Israël, qui se reposait régulièrement sur l'Égypte pour dans des luttes politiques, pour essayer de maintenir sa position. Donc, son allié égyptien a été complètement renversé. Et en allant en Égypte, justement, les Babyloniens ont remplacé le roi qui était là. Donc, en fait, c'était Josias, donc qui était un roi qui avait redonné une relation vivante à Dieu pour le peuple. Hein. Et donc Josias a été tué au moment où il s'est opposé à l'avancée des Alors je sais même plus d'ailleurs si Josias a été tué par les Égyptiens ou les Babyloniens, mais en tout cas donc il a été remplacé par un autre roi qui lui a été donc c'était un roi qui s'appelait Yoyakim. Et qui a entraîné le peuple dans l'idolâtrie, dans la violence, dans l'injustice. Et donc Habacuc prophétise alors que le roi en place est donc ce Yehoiakim qui s'est détourné de Dieu. Alors on va lire les trois chapitres du livre d'Habacuc. C'est pas très long. Et puis ensuite on partagera un petit peu sur ce que ce prophète nous apprend de Dieu, qui nous interpelle aussi par rapport à notre propre société. Proclamation dont l'Éternel, alors je lis en fait dans la traduction du Semeur. Proclamation dont l'Éternel a donné la révélation à Habacuc, le prophète. Jusque à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide, sans que tu entendes mon cri? Jusque à quand devrais-je crier vers toi à la violence, sans que tu nous délivres? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Peux-tu rester indifférent à nos tourments?
Je ne vois devant moi que ravages et violence. Il y a des querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi et le droit n'est pas garanti. Car les méchants empêchent les justes d'agir. Les jugements qui sont rendus sont corrompus. La réponse de Dieu. Regardez, traîtres, et observez. Vous serez stupéfaits, vous serez ébahis, car je vais accomplir en votre temps une œuvre. Vous ne le croiriez pas si on vous en parlait. Je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné, qui parcourt les étendues de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. Il est terrible et redoutable. Il garantit lui-même son droit et son pouvoir. Ses chevaux sont agiles plus que des léopards. Ils ont du mordant plus que les loups du soir. Ses coursiers se déploient. Ils arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle lorsqu'ils font sur sa proie. Oui, les voilà qui viennent tous adonnés à la violence. Le visage tendu, ils foncent en avant. Voici les prisonniers rassemblés innombrables comme des grains de sable. Partout, ce peuple traite les rois avec mépris. Il se rit des princes et de toutes leurs forteresses. Il élève contre elles des terrasses de siège et s'en empare. Puis il change d'avis et il passe plus loin. Il se charge de crimes qui voue sa force à son Dieu. N'es-tu pas depuis l'origine, ô Éternel ? Tu es mon Dieu, mon saint, tu ne meurs pas. Ô Éternel, toi le rocher, c'est pour exécuter le jugement que tu as suscité ce peuple. Tu l'as rendu fort pour qu'il soit l'instrument du châtiment. Tes yeux sont bien trop purs pour accepter de voir le mal. Tu ne peux supporter la vue de l'affliction. Pourquoi supportes-tu la vue des traîtres ? Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui ? Tu traites les humains tout comme des poissons ou comme des bestioles qui n'ont ni chef ni maître. Car le Chaldéen les prend tous à l'hameçon, il les drague dans son filet, il les entasse dans sa nasse. C'est pourquoi il se réjouit et il exulte. Alors il offre à son filet des sacrifices, il brûle de l'encens en l'honneur de sa nasse. Car il obtient par eux une pêche abondante, des repas plantureux. Continuera-t-il donc toujours à dégainer son glaive pour égorger d'autres nations sans aucune pitié ? Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur. Et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. L'Éternel répondit : Écris cette révélation. Et grave-la sur les tablettes. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que je vienne, que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur. Mais le juste vivra grâce à sa foi. En effet, la richesse décevra, le guerrier orgueilleux et il ne réussira pas. Pardon. La richesse décevra le guerrier orgueilleux et il ne réussira pas. Lui qui, tel le séjour des morts, ouvre une large bouche et qui, comme la mort, n'est jamais rassasié. Car il ajoute à ses conquêtes, nation après nation, il rassemble tous les peuples sous sa domination. Mais un jour, tous ces peuples lanceront contre lui des proverbes moqueurs et des paroles ironiques. Et l'on dira, malheur à lui! Car il amasse des richesses qui ne sont pas à lui. Jusqu'à quand cela va-t-il durer ? Il accumule un lourd fardeau de dettes. Tes créanciers ne surgiront-ils pas soudain ? Ils se réveilleront pour te faire trembler. Ne seras-tu pas mis au pillage par eux ? Toi qui as dépouillé des nations innombrables, tu seras dépouillé par les peuples qui restent. Car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. Malheur à qui amasse un profit malhonnête pour toute sa famille et cherche ainsi à établir son nid sur les hauteurs, pour le mettre à l'abri de tout malheur. Oui, c'est le déshonneur de ton propre royaume que tu as préparé. En détruisant de nombreux peuples, tu t'es fait du tort à toi-même. Car du sein des murailles, les pierres vont crier et la charpente, les poutres leur feront écho. Malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang, à qui fonde la cité sur le crime. Quand les peuples travaillent pour ce qui périt par le feu et quand les nations s'éreintent pour rien, cela ne vient-il pas de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes ? Car la terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Malheur à toi, qui force ton voisin à boire et qui vide ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. Toi aussi tu seras rassasié d'infamie au lieu de gloire. Toi aussi tu boiras, et puis on te mettra à nu pour découvrir ton incirconcision. Ton tour viendra de boire la coupe de la colère, que l'Éternel te tendra de sa droite. Le déshonneur recouvrira ta gloire. Tu seras submergé par la violence même que tu as exercée contre la forêt du Liban. Le massacre des animaux retombera sur toi pour t'écraser, car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. À quoi sert une idole sculptée par l'artisan ou une statue de métal fondu qui n'est qu'un guide mensonger? Car celui qui l'a faite se confie en son œuvre pour fabriquer une idole muette. Oui, malheur à qui dit à un morceau de bois, « Réveille-toi, à la pierre muette, allons, sors du sommeil !» Peuvent-ils enseigner? Voici, ils sont plaqués d'or et d'argent, mais il n'y a en eux aucun souffle de vie. L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple. Que le monde entier fasse silence devant lui. Prière d'Habacuc, le prophète, en forme de complainte. Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu viens de proclamer. Je me suis effrayé devant ton œuvre, ô Éternel. Dans le cours des années, accomplis-la. Dans le cours des années, fais-la connaître. Dans ton indignation, rappelle-toi d'être clément. De Téman, Dieu arrive. Le Saint vient des montagnes du pays de Paran. Sa majesté couvre le ciel et sa louange remplit la terre. Il a l'éclat de la lumière et de sa main jaillissent deux rayons. C'est là qu'est le réservoir de sa force. La peste meurtrière chemine devant lui, la fièvre brûlante marche à sa suite. S'il vient à s'arrêter, il fait vibrer la terre. Quand il regarde, il fait sursauter les nations. Les montagnes antiques sont disloquées et les collines des anciens temps s'effondrent. Ses voix sont éternelles. J'ai vu les tentes de couchants réduites à néant, les abris de Madian trembler épouvantés. Est-ce contre les fleuves que l'Éternel s'irrite? Est-ce contre les fleuves que ton courroux s'enflamme? Est-ce contre la mer que ta fureur s'exerce, pour que tu viennes ainsi monter sur tes chevaux et pour que tu bondisses sur tes chars victorieux? Ton arc est mis à nu. Tes traits sont les serments que tu as prononcés. Tu crevasses la terre, livrant passage aux fleuves. Les montagnes t'ont vu et elles tremblent. Des trombles d'eau s'abattent, l'abîme se met à rugir, lançant bien haut ses vagues. Le soleil et la lune restent dans leur demeure, devant l'éclat de tes flèches qui partent et la clarté des éclairs de ta lance. Avec colère, tu parcours la terre, tu foules les nations au pied de ton indignation. Oui, tu t'es mis en route pour délivrer ton peuple et pour sauver ton roi qui a reçu l'onction. Tu as décapité la maison du méchant, tu l'as démolie de fond en comble. Tu transperces la tête de tes ennemis avec ses propres flèches, alors qu'il arrivait comme un vent d'ouragan dans le but de nous disperser. Déjà nos ennemis se réjouissaient, comptant bien dévorer l'opprimé en secret. Tu as lancé tes chevaux dans la mer, dans le bouillonnement des eaux puissantes. J'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent, je reste là tremblant, puisque je dois attendre tranquille. J'attendrai le jour de la détresse. Oui, l'ennemi qui doit nous assaillir attaquera le peuple. Car le figuier ne bourgeonnera plus, il n'y aura plus de raisins dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs, les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos, les bœufs de leurs étables. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches, il me fait cheminer sur des lieux élevés. Pour le chef des musiciens, à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Dans le premier chapitre de ce texte, le prophète voit la corruption qui existe dans son pays. Et il va interpeller Dieu. Il va se placer devant lui et il va lui dire, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce que je vois va continuer? Le pays est plongé dans dans l'injustice, dans la violence, dans le chaos. Alors, toi, Éternel, quand est-ce que tu vas intervenir? Le prophète a
cette proximité suffisante avec Dieu pour pouvoir lui parler sans détour, sans cacher ce qu'il voit. Il peut regarder la réalité en face et il peut interpeller son Dieu sans chercher à faire comme si les choses n'étaient pas si mal. Donc il se présente devant Dieu et il lui demande des comptes, un peu comme l'a fait Job, comme le font aussi bien sûr d'autres prophètes. Et Dieu va lui répondre, et il va lui répondre quelque chose à laquelle le prophète ne s'attendait pas. Il va lui annoncer le jugement qui vient sur Juda et Israël. Il va lui annoncer la venue des Chaldéens, un peuple d'une extrême violence, qui a déjà décimé, déporté des peuples autour d'Israël. Dieu va annoncer cette violence qui vient, et par là, il montre sa maîtrise de l'histoire. Dans les circonstances du prophète, c'est Dieu qui permet à Babylone, à la Syrie, d'être l'instrument de son châtiment face à l'idolâtrie et à la révolte de son peuple. Dieu est souverain sur l'histoire. C'était vrai à l'époque d'Habacuc, c'est vrai encore à notre époque. Et face à cette annonce, le prophète va encore prendre la parole et il va encore une fois interpeller Dieu. Encore une fois avec une grande liberté. Et il va là aussi comparer ce qu'il sait de Dieu avec ce qu'il voit. Il va lui dire, mais j'entends que tu vas exercer ton châtiment à travers les Chaldéens, mais comment toi qui es saint, toi qui es juste, comment peux-tu voir ce peuple idolâtre, ce peuple violent, ce peuple qui ravage et qui dépouille ceux qui sont sous sa domination? Comment est-ce que toi qui es saint et tout puissant, comment est-ce que tu peux accepter de voir cela? Comment supportes-tu la vue des traîtres? Comment gardes-tu le silence alors que l'impie engloutit un plus juste que lui? Derrière cette interrogation, on retrouve la question de la valeur, finalement, de l'être humain devant Dieu. Et il va lui dire, mais alors, pour toi, alors les êtres humains sont comme des bestioles, sont comme des... comme des poissons, comme des bestioles qui n'ont ni chef ni maître. Ils sont rassemblés par les Chaldéens, détruits. Quelle valeur est-ce qu'ils ont à tes yeux? Et, je sais pas si vous vous rappelez, on en avait déjà parlé. Effectivement, ces prophètes de l'Ancien Testament posent cette question-là de façon récurrente. Est-ce que les êtres humains ont une valeur à tes yeux? Et on avait déjà partagé autour du fait que, bien sûr, la réponse à cette question, elle va se trouver en partie dans la réponse de Dieu, mais la réponse fondamentale à cette question, bien sûr, elle se trouve en Christ. Et c'est en Christ que Dieu a répondu à cette question. Vous vous rappelez ce qu'on avait partagé sur... Donc Yancey, celui qui avait écrit ce livre donc sur la Bible que Jésus lisait, il disait... Quelqu'un avait écrit sur un rocher, donc c'était aux États-Unis, hein, évidemment, avait écrit sur un rocher « Jésus a la réponse », et quelqu'un avait écrit en dessous « Mais quelle est la question ?» Et bien la voilà la question. Voilà la question. Est-ce que les êtres humains ont une valeur aux yeux de Dieu? Et Jésus répond oui. Oui, je viens démontrer quelle est cette valeur. Donc là, le prophète nous pose cette question. Et ensuite, il a une attitude qui est, je trouve, vraiment admirable. Contrairement à Job, qui va rester finalement dans sa souffrance et dans son incompréhension vis-à-vis de Dieu, contrairement à Jérémie, qui va s'apesantir sur ses souffrances, Habacuc, lui, nous dit « Je me tiendrai debout à mon poste de guetteur et j'attendrai la réponse de Dieu, j'attendrai la réponse que Dieu fera dans mon cœur. » Il nous dit « Je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation, ce que le Seigneur lui mettra dans son cœur comme réponse aux interrogations qu'il a posées. » Habacuc se tient debout devant son Dieu, avec humilité. Avec humilité, il est prêt à entendre ce que Dieu a à dire, mais il est prêt aussi à, j'aime beaucoup cette formulation, je me tiens debout à mon poste de guetteur. Il est là, debout, pour recevoir la parole que Dieu va lui envoyer. Il est là aussi pour accomplir son ministère d'annonce, parce que cette parole que Dieu va lui donner, il va la partager avec son peuple. Il était là pour voir la corruption et voir l'état spirituel de ses contemporains. Il est là aussi pour recevoir ce que Dieu a à lui dire, et il le fait une fois de plus avec humilité et aussi avec confiance, parce qu'il sait que le Seigneur va lui répondre. Et le Seigneur va lui répondre, et il va lui dire, d'une façon assez solennelle, hein, puisqu'il lui dit, tu vas écrire ce que je te dis, d'accord, sur les tablettes, d'accord, pour que tes contemporains puissent lire et comprendre ce que je leur dis, eh bien, tu vas leur dire que je viens. Je viens. Et je ne tarde pas. Vous vous rappelez, le dimanche dernier, Luc avait étudié 2 Pierre 3, et c'était cette même parole que Dieu nous donne. Je viens et je ne tarde pas. Dans Pierre, c'était « Je ne tarde pas car je manifeste ma patience à votre égard. Parce que je veux que tous ceux qui m'appartiennent soient sauvés. » Dieu est patient et il ne tarde pas, mais il vient. Et c'est ça qu'il demande à son prophète de dire à son peuple. Je viens, et c'est ce que Habacuc va ensuite mettre dans le psaume qu'il va écrire. Dieu arrive, le Saint vient des montagnes du pays de Paran. Le Seigneur vient. Et on peut aussi voir d'ailleurs que Dieu ne se justifie pas. Vous savez, quand Job lui a demandé de lui dire pourquoi tous ces malheurs lui arrivaient, vous savez bien que Dieu n'a pas répondu à ce pourquoi-là. De la même façon, ici, il ne se justifie pas sur le fait de pourquoi est-ce qu'il envoie ce peuple violent de Babylone. Il se justifie pas, mais il répond à l'attente du prophète, de la même façon que Job a été satisfait quand Dieu s'est manifesté, quand il a manifesté sa gloire et sa puissance. Job a dit, alors maintenant, oui, je reconnais que j'ai eu tort et j'accepte ce que tu me dis, et je m'humilie, parce que maintenant,
Mes yeux t'ont vu.
Donc, Dieu répond au prophète en lui disant, voilà, je vais me manifester, je vais manifester ma gloire, ma puissance, même d'une façon terrible. Et c'est ce que Habacuc reprend dans son psaume, la puissance terrifiante de Dieu. Et à cette réponse de Dieu, le prophète, lui aussi, répond en donnant cette parole qui est citée plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Le juste vivra grâce à sa foi. Dieu dit qu'il va venir, et à cette annonce, le juste répond, eh bien, je t'attends. Je t'attends et je marche avec toi. Je marche en comptant sur ta fidélité. Et je vis grâce à cette confiance et à cette attente. Le juste vivra par la foi. C'est comme ça que c'est souvent traduit dans le Nouveau Testament. Ici, le juste vivra grâce à sa foi. Alors bien sûr, dans le Nouveau Testament, Paul, magnifie cette parole en lui donnant le sens de la foi du juste le sauvera. Et c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est un don de Dieu. Donc cette foi va te sauver. Cette foi en Christ va te sauver. Ici, alors on peut dire que cette parole de la foi qui sauve est déjà contenue en germe dans ce qu'Habacuc nous partage. Et ici, il s'agit de cette marche avec Dieu, de cette marche au travers des difficultés et des souffrances, où s'exprime une relation et une harmonie entre Dieu et celui qui s'attend à lui. Dieu se manifeste et l'homme répond à cette manifestation en se confiant en lui et en attendant à la fois sa venue, mais aussi en vivant de sa foi, en vivant de sa relation avec Dieu. Et cette vie de relation, le prophète va la mettre en opposition avec la façon dont le monde fonctionne, dont son monde fonctionne, à la façon dont les Chaldéens vont manifester leur façon de vivre. Et bien, il va opposer cette vie du juste avec. Et donc là, il nous parle de la richesse, de la violence et de la domination et de l'idolâtrie qui sont les caractéristiques d'une vie sans Dieu, d'une vie selon la chair, hein, pour reprendre une expression du Nouveau Testament. Et il va prononcer cinq malheurs sur les Chaldéens, malheurs qui, bien sûr, donc sont contextuels à la façon de vivre de ces Babyloniens, mais sont pas forcément si éloignés. C'est ce que on va essayer de voir rapidement, pas forcément si éloignés de notre propre société. Les deux premiers malheurs que Habacuc prononce sont des malheurs liés à la richesse, à l'accumulation. Il va dire malheur à toi qui amasse des richesses qui ne sont pas à lui. Malheur à celui qui amasse un profit malhonnête pour toute sa famille. Alors ça nous fait penser à ces richesses injustes dont parle Jésus. En même temps, on voit que c'est pas Dans la façon dont Habacuc parle de ses richesses, on voit que c'est pas simplement du pillage. Il est question d'un profit malhonnête pour toute sa famille, pour celui qui veut même protéger les siens, et qui pourtant accapare et vole ce qui n'est pas à lui. La conséquence de ça, eh bien, ça va être que ceux qui ont pillé seront à leur tour pillés, ceux qui ont volé seront déshonorés. Et je vous ai dit que c'était pas forcément si loin de notre société. Et là, moi, je pense à l'actualité la plus immédiate. Hein. Vous savez ce qui se passe en Grèce aujourd'hui. Quand on parle de créanciers, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à la situation des Grecs. Et bon, j'ai pas de d'avis tranché sur qui a tort et qui a raison dans la situation grecque. Par contre, je sais quand même que beaucoup d'argent a été investi, a été prêté, a été manipulé dans ce pays. Et je sais aussi que c'est essentiellement pas le peuple qui en a profité, que les créances que les Grecs doivent rembourser maintenant, eh ben, sont essentiellement des créances qui sont parties pour enrichir ceux qui étaient déjà riches. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à cette façon qu'a notre monde encore d'accumuler des richesses parmi les plus riches, de capter, de détourner l'argent qui était destiné aux plus pauvres. Et donc, une fois de plus, cette parole sur les Babyloniens peut aussi nous parler. Le troisième malheur annoncé sur les Chaldéens concerne leur violence. Alors c'est une violence qui parcourt tous ces malheurs. À chaque fois la violence exercée contre le peuple est mentionnée. Mais ici, donc il est dit « Malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang ». Et là, bien sûr, là c'est la même chose. L'actualité nous rattrape aussi. Une ville est bâtie dans le sang. Je ne peux pas m'empêcher là aussi de penser à Daesh, de penser à l'Érythrée, de penser au Soudan, où ces organisations se construisent en martyrisant, en massacrant les gens qui sont soumis à leur domination. Ce texte nous dit, en parlant des Chaldéens, ce que vous avez volé et pillé, eh bien, ça ne vous servira à rien, vous n'en profiterez pas. Et on sait effectivement que le royaume de Babylone n'a pas duré très longtemps. Et j'espère que là aussi, que à la fois Daesh, le gouvernement d'Érythrée ou du Soudan dureront pas trop longtemps en fonction des horreurs qu'ils commettent. Mais encore une fois, on peut voir ce qui est loin, et puis on peut aussi se poser peut-être des questions sur notre propre société. Vous savez probablement que la France fait partie alors je sais plus si c'est le deuxième, troisième vendeur d'armes dans le monde. Nous participons nous aussi à la violence qui s'exerce un peu partout dans le monde, et on peut pas complètement se dédouaner de ça. La France gagne des milliards, des dizaines de milliards d'euros chaque année en vendant des armes un peu partout à des régimes qui parfois sont pas particulièrement respectueux des droits de l'homme. Hein. Donc même notre propre société est pas sans reproche à faire face à la violence qui s'exerce dans le monde. Le quatrième malheur, c'est malheur à qui enivre son prochain, à qui profite de sa faiblesse. Et là aussi, donc la prophétie, c'est bien toi, tu profites de la faiblesse, mais un jour toi aussi, tu seras faible. Et là encore, en faisant une transposition à notre propre société, moi je pense à tous ces. On parlait de crédit tout à l'heure, à tout cet argent qui a été prêté en Afrique, qui a été prêté même aux Grecs, prêté à des gouvernements qui étaient largement corrompus, de l'argent qui a été prêté par nous, et investi et détourné, et argent qui finalement n'est jamais arrivé à sa destination. Mais par certains côtés, nous avons profité de la faiblesse de ces gouvernements pour leur proposer de l'argent. Alors bien sûr, les gouvernements ont pris l'argent et ensuite les peuples doivent le rembourser. Nous aussi, nous avons profité de la faiblesse de ceux qui étaient autour de nous. Alors, une fois de plus, ces prophéties concernent des... Là, ça concerne un peuple. Donc ce sont des malheurs qui sont adressés à un peuple. Donc ça ne s'adresse pas forcément à nous individuellement. Je présume qu'aucun parmi nous n'a jamais essayé d'enivrer son voisin pour profiter de lui. Mais malgré tout, nos sociétés portent elles aussi la culpabilité, finalement, de ces agissements que Dieu condamne ici. Le dernier malheur concerne l'idolâtrie. Et bien sûr, hein, les Babyloniens étaient un peuple idolâtre, bon, à un degré qu'on a probablement du mal à imaginer maintenant. Et on pourrait là aussi se sentir à l'abri par rapport à, il n'y a a priori pas d'idole chez nous. Malgré tout, je lisais il n'y a pas très longtemps un livre sur le sens que nos sociétés essaient de donner à la vie. Donc c'était un bouquin écrit par Luc Ferry, hein, un ancien ministre de l'Éducation en France. Donc qui nous expliquait, enfin qui expliquait dans son livre que effectivement nos sociétés étaient désormais laïques, Dieu avait été éjecté de la sphère publique, mais les hommes restaient en demande de sens, ils cherchaient toujours un sens pour leur vie, et nos sociétés proposent désormais de remplacer Dieu simplement par l'humanisme. Proposer même une transcendance, quelque chose qui dépasse l'homme et qui consiste en tout ce que l'homme peut accomplir et réaliser, et notre soif de sens pourrait être rempli à travers cette grandeur de l'humanité, la grandeur de ses valeurs, la grandeur de ses projets d'émancipation, de liberté. On se retrouve, je pense, exactement dans la description d'une idolâtrie où la créature remplace le créateur. Et nos sociétés se dirigent droit là-dedans, droit dans le fait de placer ce que l'humanité peut construire, alors pas une statue bien sûr, mais des constructions peut-être plus je dirais pas spirituelles, mais des constructions de l'esprit, et de les placer à la place de Dieu. Et la réponse de Dieu à cette démarche là, c'est de dire: L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple, et que le monde fasse silence devant lui. Plutôt que l'humanité propose ses solutions et les annonce à grands cris, Dieu lui propose plutôt de faire silence et d'écouter ce que lui a à dire. Dans le troisième chapitre de ce texte, donc Habacuc écrit un psaume, hein, un chant qui doit être chanté pendant les moments liturgiques de la vie du peuple, et il annonce la venue de Dieu, la venue du jugement de Dieu, de la manifestation de sa puissance, comme je l'ai dit, d'une puissance terrifiante, avec les montagnes qui sont disloquées, avec les fleuves et la mer qui bouillonnent et qui la terre qui se crevasse, etc. Donc on reprend un peu la même façon de présenter Dieu dans sa puissance que ce que Dieu a pu répondre à Job. Et donc en fait ça Habacuc va reprendre cette idée que Dieu annonce sa venue et que le juste lui attend et se confie en son Dieu. Donc il nous dit, voilà, j'ai entendu cette nouvelle et j'en suis tout bouleversé, mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent, je reste là tremblant. Et puisque je dois attendre, tranquille, j'attendrai le jour de la détresse. Ce qui est devant Habacuc est terrible. Et effectivement, hein, 15 ou 20 ans après qu'il ait écrit ça, Judas va être déporté à Babylone avec un siège terrible, etc. Enfin, des choses horribles vont se passer peu de temps après. Et donc Habacuc voit cela arriver, il accepte ce jugement de Dieu. Et il dit, bon bien, tout cela va arriver, le figuier ne bourgeonnera plus, tout va être détruit, mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir, et j'exulterai de joie, à cause du Dieu qui me sauve. Habacuc décrit une relation vivante avec Dieu. Il décrit la relation d'un homme debout devant Dieu, debout avec humilité, debout dans le sens d'un homme qui est à l'œuvre, qui s'implique dans sa société, qui est debout pour recevoir ce que Dieu a à lui dire, qui est debout aussi pour interpeller Dieu sur ce qu'il ne comprend pas, entre ce qu'il sait de Dieu et ce qu'il voit se manifester. Il est prêt à interpeller Dieu et à lui demander des comptes, sachant que la réponse de Dieu sera pas forcément celle qu'il attend. Il s'engage donc dans une relation de confiance avec son Dieu. La société d'Habacuc est sur laquelle Dieu porte un jugement n'est pas si éloignée de la nôtre. Et nous aussi, je crois, nous avons à sortir, non pas du monde, mais de la façon de penser et de voir du monde, sortir de cette accumulation de richesse, sortir de la violence. J'ai pas mentionné le fait que Habacuc, là, à un moment donné, nous parle de la destruction de la nature qu'ont commis les Babyloniens. Il nous parle des forêts du Liban, il nous parle du massacre des animaux que les Babyloniens ont fait. Dieu aime sa création et là aussi notre société est en train de prendre conscience du fait qu'elle exerce une violence une violence énorme sur la terre, sur la création de Dieu. Alors on sait bien sûr toutes les questions de réchauffement climatique qui nous attendent et qui attendent surtout nos enfants. Je lisais récemment qu'on est probablement en train de vivre une des extinctions d'espèces, une des extinctions de masse. Des dizaines de milliers d'espèces sont en train de disparaître. On utilise la nature, on la détruit, on massacre la création que Dieu nous a confiée. Et Dieu juge cela. Il le juge pour les Chaldéens, et je pense qu'il le juge pour nous aussi. Donc cette conscience écologique, alors que les protestants ont depuis quand même assez longtemps, que même, je pense que vous avez entendu parler de l'encyclique qu'a publié le pape, je pense que c'était, alors, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, où il reprenait un chant de François d'Assise, le chant des oiseaux, où Dieu parle de la terre et de sa création. Cette conscience écologique monte dans notre société, et nous-mêmes en tant que chrétiens, on a aussi à se détourner de la violence faite à la nature. Et le chemin que propose Habacuc, c'est le chemin de la foi. Cette parole, le juste vivra grâce à sa foi, je pense que c'est une parole vraiment forte qui peut nous interpeller nous aussi. Bien sûr, cette parole s'accomplit en Christ. Mais le chemin que propose Habacuc, c'est un chemin qui est exigeant, qui demande qu'on se pose des questions sur notre vie, sur notre société, sur la façon dont nous-mêmes nous tenons debout devant Dieu. Est-ce que la façon dont nous sommes prêts à entendre ce qu'il a à nous dire, sur la façon dont notre société même fonctionne. Moi, en ce moment, peut-être une des choses qui me choque dans notre actualité à nous, c'est la façon dont les migrants sont traités dans notre société. Le fait de savoir que des Érythréens ou des Africains sont retenus à quelques dizaines de kilomètres d'ici, à Vintimille, que la police les prend, les ramène, et qu'ils essaient désespérément de passer, qu'ils sont chassés des endroits où ils essaient de se réfugier par la police et qu'ils vont d'endroit en endroit. J'ai pas évidemment de solution. Je sais pas ce qui est bien, mais quelque part, je pense que notre, en tout cas, voilà, pour moi, je pense que je crois pas que Dieu soit heureux de voir. De nous voir réagir de cette façon-là, et je me demande qu'est-ce qu'il attend de nous face à ce genre de situation. Le juste vivra grâce à sa foi, il vivra à travers sa foi. C'est sa foi qui doit le conduire dans la façon dont il accomplit sa vie dans sa société. Alors je termine simplement avec ce dernier verset d'Habacuc. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches, et il me fait cheminer sur des lieux élevés. Alors que le Seigneur puisse nous conduire sur ces lieux élevés. Merci.